Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Moustaki, c'est mon frère.
Alors je peux m'en aller?
Ben oui, vous êtes libre.
Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
Il faut qu'on m'appelle aussi pleure-misère, qu'il lésineur, qu'il rat. Parce que je suis avare, comme un rat.
Toujours cruel, Pierre-François.
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient. La terre brillerait comme un soleil.
Baptiste.
Vous allez le tuer, j'espère.
S'il fallait tuer tous les imbéciles.
Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses.
À cause de toi, à cause de Baptiste, je suis devenu jaloux. Mais jaloux, moi.
Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai pas prise dans mes bras. Non, j'ai posé des conditions, mais aimez-vous comme je vous aime. Je vais fermer la porte. Cette porte-là pour toujours entre moi et mon amour.
Vous avez la tête trop chaude pour moi, Pierre-François. Et le cœur trop froid. Je crains les courants d'air.
Clarence.
Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Mais savoir ce qui me reste.
C'est un film qui est extrêmement riche et qui va dans un certain nombre de directions. L'amour est central, ça c'est évidemment capital, et Prévert, qui se livre très peu sur son travail, le dit explicitement. Donc profitons pour une fois de son témoignage. Ce qui me semble très intéressant au niveau du traitement là qu'il fait de cet amour, c'est qu'il crée une intrigue principale qui est l'amour contrarié, impossible, cette espèce d'aporie de l'amour entre Garance et Baptiste. Et il va développer autour de cette intrigue principale, des intrigues secondaires, périphériques, qui lui permettent de présenter un peu toutes les formes d'amour qui existent. Donc d'un côté, Garance a une relation qui est charnelle, sensuelle, dans les mots, avec l'acteur parlant Frédéric Lemaître. D'un autre côté, elle va avoir, il y a une sorte d'amour plus vénal avec le comte de Montré, qui va en quelque sorte l'emprisonner, parce qu'elle garde toujours en partie sa liberté, mais quand elle a besoin, suite à une erreur judiciaire, de faire appel à lui, elle se retrouve un peu sous son emprise. Donc Prévert développe ces sortes d'amour, et en les développant pour complexifier son scénario et ses intrigues, il crée effectivement des passerelles, des parallèles entre le théâtre et la vie. Et toute cette mise en abîme, c'est effectivement un des thèmes principaux du film. Alors c'est très lié à l'aspect biographique de Prévert. Prévert ne dissociait pas, ne compartimentait pas les choses. Et évidemment, toute son œuvre est en partie autobiographique.
Dans ma veste de soie rose, je déambule. Le mot rose, le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là.
Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, mes musiciens sont ridés sur ce clavier, c'est jauni. J'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais.
Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis.
Il est certain que j'ai recherché toujours une atmosphère. Il est certain qu'une histoire, pour moi, la plus belle histoire, si on ne peut pas l'incorporer à un milieu intéressant, j'hésiterai à la tourner. Vous comprenez, très souvent, une atmosphère et des personnages m'intéressent plus que la trame elle-même.
Entrez, mesdames et messieurs, entrez. 1 franc aux avant-scènes si vous êtes fortuné et 4 sous au paradis si vous êtes pauvre ou momentanément gêné. Entrez, entrez et venez voir les dangers de la forêt vierge, où le crime et la vertu, grande pandémie féerique, exotique et pyrotechnique. Entrez !
J'aime Arletty. Arletty n'est pas charmante. Arletty, c'est le charme. Arletty n'est pas drôle. Arletty, c'est l'humour. Oui, Arletty, c'est l'humour, avec tout l'amour de la vie et sa compréhension. Arletty, elle est partout chez elle. Puisque partout pour elle, c'est la vie. Elle est en famille avec la vie. Sa voix qu'on dit de Paris, c'est une voix de bien ailleurs aussi. Une voix dans l'autrefois d'aujourd'hui. Et quand c'est la voix de la rue, c'est la voix de la rue. Quand la rue est un salon, un vrai, où on parle vivant, lucide, désespéré parfois, ou marrant en même temps, Presque toujours. Arletty, je la vois au studio, traversant un décor, à demi nu. Et c'est la beauté. Les machinistes retiennent leur marteau. Et sans ôter leur casquette, la salue du regard. C'est la beauté, toute simple. La beauté, la grâce et la lucidité.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Au rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement deux minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, me quitter pour quoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous en savez?
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vous l'êtes. Alors?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard?
Oh. Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Ce
qui est frappant aussi, c'est cette constance chez Prévert de cet amour pour Arletty. Constamment, il y a une émotion dans sa voix et dans ses textes quand il parle d'Arletty. C'est assez frappant. Et il écrit hein, ses scénarios et ses personnages pour elle. Le personnage de Garance, il l'a composé sur mesure pour cette actrice. Donc ça, c'est quand même aussi extrêmement impressionnant. Et il lui donne des facettes qui, évidemment, là aussi, mêlent fiction et réalité. Parce que le personnage de Garance, ça a de grandes similitudes avec celui d'Arletty. Le fait que ce personnage été livré à lui-même quand il était petit. Arletty explique, enfin Garance explique très bien dans Les Enfants du Paradis qu'elle a vécu avec sa mère, qu'elle a été très vite dans une vie assez misérable, ce qui est très tôt noté sur le scénario d'ailleurs.
Hein, qu'elle a été très heureuse jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est ce qu'elle dit. Qu'à 15 ans, sa mère est morte et qu'elle a connu la misère.
Mais voilà, à côté du personnage de Garance, sur le scénario, Prévert écrit quand même la misère. Donc voilà, il y a cet ancrage biographique, cette enfance qui est un peu similaire, cette liberté d'Arletty qui est mise en avant aussi dans le scénario par le personnage de Garance, parce que Arletty, pendant cette période-là, reste aussi libre au niveau de ses amours. Elle a une liaison avec un officier allemand, et c'est là qu'elle déclara...
Alors
que
qu'on est en 1943.
Exactement, c'est là qu'elle déclara que son cœur est français, mais son cul est international. Donc voilà, il y a tout ce
elle
parallèle.
Elle ira en prison d'ailleurs.
Elle ira en prison, bien sûr, elle enregistrera même certaines des voix des Enfants du Paradis en prison pour les derniers enregistrements sonores. Donc oui, cette passion de Prévert pour Arletty, elle est constante, et là encore, Prévert qui se livre assez peu, expliquera un petit peu plus tardivement dans les années 60 qu'en fait, s'il devait choisir deux films pendant sa filmographie, il choisirait L'Affaire est dans le sac en 1932 avec son frère Pierre, réalisé par son frère Pierre Prévert, mais aussi Les Enfants du Paradis. Et lorsque le journaliste lui demande pourquoi, il répond « pour Arletty ».
Entrez, mesdames et messieurs, entrez. 1 franc aux avant-scènes si vous êtes fortuné et 4 sous au paradis si vous êtes pauvre ou momentanément gêné. Entrez, entrez et venez voir. les dangers de la forêt vierge, où le crime et la vertu, drôle pandomime féerique, exotique et pyrotechnique, entrez!
L'ensemble du scénario est ancré sur trois personnages qui ont réellement existé. Effectivement, le mime de bureau, Frédéric Lemaître, le grand acteur parlant, et Lassner, le poète assassin. Bon, il y a une petite, quelques largesses avec la chronologie, mais enfin, globalement, dans la première moitié du 19e siècle, ces personnages ont vécu et ne se sont pas tous forcément rencontrés. Ce qui est intéressant là aussi au niveau de la genèse, c'est qu'en fait, c'est l'étincelle, le point de départ du film, c'est Jean-Louis Barrault qui l'amène, parce qu'il est en train de travailler sur le mime de bureau, il a envie d'incarner un mime, et il propose à Carnet et Prévert, qui sont en quête d'un sujet, après Les Visiteurs du Soir en 1942, de faire un film sur le mime de bureau.
Alors, qui est le mime de bureau ?
Alors, le mime de bureau est un des grands mimes du 19e siècle, qui a évidemment profondément marqué les scènes parisiennes, le boulevard du Temple, dit le boulevard du crime, parce qu'on y jouait aussi beaucoup de mélodrames, et Barrault s'intéresse à ce personnage. Mais Carnet n'est pas emballé véritablement par De Bureau, mais ce qu'il voit dans cet éventuel projet, c'est la possibilité de mettre en scène Paris, de mettre en scène les théâtres, avec évidemment beaucoup de figurants et toute une atmosphère, justement, toute une ambiance. Et c'est là que ça devient aussi intéressant, parce que c'est Prévert qui amène le troisième personnage, justement, qui a réellement existé, en l'occurrence Lassner, le poète assassin, parce que Prévert a toujours eu envie d'écrire un scénario sur Lassner, mais il avait parfaitement conscience qu'il ne pourrait jamais tourner un film sur Lassner. Donc il va insérer Lassner dans un film sur De Bureau, et c'est ainsi que les croisements vont se faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage féminin de Garance, lors de recherches au moment de l'exposition sur le film à la Cinémathèque française, je l'ai trouvé ponctuellement dans des ouvrages du 19e siècle, notamment un ouvrage sur Lassner et l'assassinat, où il y a un personnage féminin qui se rend tous les soirs au théâtre pour aller voir le mime Baptiste. Donc le personnage de Garance n'a pas existé en lui-même, mais en tout cas il prend racine comme ça dans des petites anecdotes que Carnet, Prévert et les autres collaborateurs ont dû lire, bien évidemment.
Oh, pretty baby, you've been driving me wild with the face of a woman and the body of a child. I saw your first take at all the rough cuts you've been sending my middle-aged blood pressure up. EC lays on for two parody. EC lays on for two parody. EC lays on for two parody. To you, hear your marine heart. Moon dress black, and I know why you got the part. I know you're only 12, so keep it pretty tame. But money in the bank is the meaning of the game. EC lays on for two parody. EC lays on for two parody. EC lays on for two parody. Social worker, will you give it a go? Louise, you've really got it sus. Tell her it's hard. Keep the money in trust. EC lays on for new parody. EC lays on for new parody. EC lays on for.
And sable coats and leather boots. Death comes in leather boots. Death is a call girl. Death is a ripped animal, fat and bleeding in the heat. Death is a white Protestant whore. If I only had a gun, I'd never need sex again. Are you ready for incest?
Déjà sorti du puits, mon ange et ma douceur?
Le puits? Oh, n'en parlons plus, c'est fini. Et la vérité aussi.
Déjà?
Oui, la clientèle devenait trop difficile. Vous comprenez la vérité seulement jusqu'aux épaules. Ils étaient déçus.
Bien sûr, ces braves gens désiraient davantage. Rien que la vérité, toute la vérité, comme je les comprends, le costume doit vous aller ravir.
Peut-être, mais c'est toujours le même.
Quelle modestie et quelle pudeur.
Oh, ce n'est pas ça. Mais ils sont vraiment trop laids.
Ah, c'est vrai qu'ils sont trop laids. Comme j'aimerais en supprimer le plus possible.
Toujours cruel, Pierre-François?
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François?
Non, mon ange. Voyez, aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garange, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Vous avez tort de sourire, Garance, je vous assure. Je ne suis pas un homme comme les autres. Mon cœur ne bat pas comme le leur. Vous entendez absolument pas. Avez-vous déjà été humilié, Garance?
Non, jamais.
Moi non plus, mais ils ont essayé. C'est déjà trop pour un homme comme moi.
Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne nous l'ont pas pardonné. Ils voulaient que je sois comme eux, que je dise comme eux. Levez la tête, Pierre-François. Regardez-moi. Baissez les yeux. Et ils m'ont meublé l'esprit de force avec des livres, de vieux livres, tant de poussière dans une tête d'enfant. Belle jeunesse, vraiment. Ma mère, ma digne mère, qui préférait mon imbécile de frère, et mon directeur de conscience qui me répétait sans cesse, vous êtes trop fier, Pierre-François, il faut rentrer en vous-même.
Alors je suis rentré en moi-même. Je n'ai jamais pu en sortir. Les imprudents me laissaient tout seul avec moi-même et ils me défendaient les mauvaises fréquentations. Quelle inconséquence. Mais quelle prodigieuse destinée. N'aimer personne. Être seul. N'être aimé de personne. Être libre.
C'est vrai que je n'aime personne. Pas même vous, Garance. Et pourtant, mon ange, vous êtes la seule femme que j'ai jamais approchée sans haine ni mépris.
Je ne vous aime pas non plus, Pierre-François.
C'est fort heureux. Mais pourquoi venez-vous me voir tous les jours? Est-ce parce que je ne vous ai pas demandé ce que tous les autres hommes, sans aucun doute, vous demandent?
Non.
Je sais, vous n'êtes pas coquette. Alors pourquoi?
Parce que je m'ennuie.
Je vous amuse, peut-être.
Oui, vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant.
Vous ne me prenez pas au sérieux? Si j'étais vaniteux, je serais blessé jusqu'à l'os. Mais je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation, ma route est toute tracée, mon chemin est tout droit. Et je marcherai la tête haute. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud.
Vous avez raison, Pierre-François. Faut toujours écouter ses parents.
En fait, c'est quand même Les Enfants du Paradis, c'est aussi un film d'acteur, et c'est peut-être principalement un film d'acteur. Et Prévert, justement, disait que ce qui l'intéressait au cinéma, c'était les acteurs, et qu'il ne faisait du cinéma que pour les acteurs, pour créer des personnages pour eux et sur mesure. Et ce qui est aussi très intéressant, je ne sais pas si vous savez comment Prévert commence un scénario, il commence toujours un scénario en fait en créant les personnages. Il prend une très grande planche sur laquelle il dessine des lignes horizontales et comme sur une sorte de portée musicale, il va disposer ses personnages. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, il dispose le personnage du mime et le personnage donc le personnage de Baptiste et le personnage de Frédéric Lemaître et il écrit en rouge d'emblée, dès ce premier brouillon, dès ce premier jet créatif, les mots et les gestes. Et la dichotomie, elle est vraiment marquée dès le début. Donc il a vraiment, dès ce premier jet, voulu ancrer cette différence et ce passage entre le parlant et le muet. Alors je dis parlant et muet parce que on y voit évidemment un parallèle avec le passage du cinéma muet au cinéma parlant à partir de 1927. Prévert était hostile au parlant, ce qui est assez amusant puisqu'il est devenu un des scénaristes qui a fait parler le cinéma français. Et ce parallèle, je pense qu'on peut vraiment l'appuyer par un certain nombre de d'éléments, et notamment celui-ci, quand on étudie tous ces manuscrits de scénario, on s'aperçoit qu'à un moment, il a fait un petit dessin où il a dessiné deux personnages et il a écrit « Les frères Lumière ». Donc ce clin d'œil est présent ici, et une autre façon qu'il a de caractériser le mime dans ce premier jet scénaristique est la suivante, il a écrit « Buster Keaton ». À côté. Donc, clin d'œil au cinéma muet aussi. Donc, cette différence, elle est là, elle est volontaire, et ça lui permet justement de rendre hommage à ces deux types d'acteurs et de développer ces deux aspects.
Je suis une ville dont beaucoup sont partis. Enfin, pas tous encore. Mais ça se rétrécit, il reste celui-là qui ne se voit pas ailleurs. Celui-là qui s'y voit, mais à qui ça fait peur. Et celle-là qui ne sait plus, qui est trop abrutie. Qui ne sait pas où elle est ou qui se croit partie. Je suis une ville où l'on ne voit même plus. Quintel n'est pas au mieux, lui qu'on a toujours vu, avec les joues bien bleues, avec les yeux rougis, ou avec le teint gris, mais bon, avec l'air d'être en vie. Un jour il est foutu et peu comprennent alors que la mort a frappé quelqu'un de déjà mort. Je suis une ville de chantiers à journée, de fêtes nationales, de peu de volonté, de fraises qui prolifèrent le nez bien dans le verre, de retrouvailles pénibles car sur un pied de guerre, de visites écourtées où dont on désespère. Je suis une ville couchée, la bouche. Parce qu'il y fait trop froid, parce que c'est trop petit. Beaucoup vont s'en aller, car beaucoup sont partis. Il en revient parfois qui n'ont pas tous compris ce qui les ramène là et les attend ici. Ils ne demandent qu'à dire combien ils sont heureux d'être là à nouveau, qu'on les y aide un peu. Qu'ils ne comptent pas sur moi pour les en remercier. On ne remercie pas ceux qui vous ont quittés, qui reviennent par dépit et ne le savent même pas. Ils ne savent rien de rien et pourtant ils sont là.
Toujours cruel, Pierre-François.
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient. La terre brillerait comme un soleil.
Baptiste.
Elle est tuée, j'espère.
S'il fallait tuer tous les imbéciles.
Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses.
À cause de Baptiste, je suis devenu jaloux. Mais jaloux, moi.
Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai pas prise dans mes bras. Non, j'ai posé des conditions. M'aimez-vous comme je vous aime. Et je vais fermer la porte. Cette porte-là pour toujours, entre moi et mon amour.
Vous avez la tête trop chaude pour moi, Pierre-François. Et le cœur trop froid. Je crains les courants d'air.
Clarence.
Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Mais savoir ce qui me reste.
Que de les accueillir. Je suis une ville dont beaucoup sont partis. Enfin, pas tous encore, mais ça se rétrécit. Et je suis bien marqué d'ailleurs, je ne vis plus que sur ce capital, mes rides bien en vue. Mais mes poches sont vides et ma tête est ailleurs. Je suis une ville foutue qui ne sait plus lire l'heure, qui a oublié.